Bonsoir, Paul.
Je se présente évidemment comme une paracha de guerre, dans la mesure où ça commence par parler de la guerre, ça termine en parlant de la guerre, et au milieu, il y a un passouk qui parle de la guerre aussi. Donc, on a vraiment l'impression que la guerre est vraiment au centre de la structure de cette paracha. Alors, elle commence par, la paracha commence par Kisetse la milchama. On parle de quelqu'un. Alors, le début, Kitetse, c'est un singulier. Kitetse, mais bien sûr, c'est pas, on parle pas d'un individu qui, c'est pas Don Quichotte, il va pas aller tout seul faire la guerre. Ni Abraham Avinu. Et donc, il s'agit du clan Israël. Donc, il faut parler de du clan Israël quand il part en guerre. Et commencer avec tout ce qu'on a vu la semaine dernière, des conditions qui sont imposées aux soldats pour qu'ils puissent être des soldats de cette armée en question. Il faut qu'ils soient sans faute, etc. Donc, ils sont, comme on dit, c'est que Ishechad, c'est-à-dire, c'est un, comme un homme avec un seul cœur. Donc, l'ensemble des soldats se forme une entité. Et après, le verset d'après, il dit, Veraïta. Après, donc, tu as fait des prisonniers, Veraïta Bashivia, et tu as vu dans la Shivia. Du coup, c'est plus, cette fois-ci, ce singulier-là n'est plus le singulier qui parle du clan Israël, mais c'est le singulier, c'est un homme en particulier qui voit, dans l'ensemble des prisonniers, il voit une prisonnière, et elle lui tape dans l'œil. Elle est très belle. Et le passouk dit, tu l'as vu, cette belle prisonnière, Fatoa, et Vechashaktaba, et tu l'as désirée. Donc ici, le mot désiré, il est rendu par Khreshek, Khreshinku. Comme vous savez, cette femme qu'il va prendre pour épouse, il va la ramener chez lui, et puis elle va devoir se dégrader physiquement, c'est-à-dire comme c'était des ces femmes qui venaient là, qui en général des princesses, elles étaient très 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 bien habillées, parce qu'une de leurs fonctions c'était de séduire les guerriers d'en face. Et donc elle va enlever cette robe d'apparat, elle va, je pense, se mettre une robe beaucoup plus simple, elle va pas pouvoir prendre soin d'elle, elle va pouvoir se laisser pousser les ongles, etc. On veut que pendant un mois, elle va pleurer, a priori, son père, sa mère, etc. Donc, on veut que, en tout cas, l'aspect beauté et séduction par la beauté disparaissent. Et à ce moment-là, on va regarder, est-ce que le bonhomme en question, il veut toujours la prendre comme épouse ou pas? Donc, on a cette situation. Et à ce moment-là, le texte, quand il parle de ça, quand il envisage qu'éventuellement, il ne la garde pas, mais là-bas, le mot désir, si tu la désires pas, là-bas, c'est marqué le chafat stabo. Donc, c'est l'autre mot. Il y a un mot qui dit chéchek pour désir et chéfetz. Deux mots. Et le double magid dit la différence entre les deux mots, c'est que chéchek, c'est pour quelque chose de très positif. Et chéfetz, c'est pas obligatoirement du positif. Les deux mots qui parlent de deux types de désirs, quoi. Donc au départ, il y a cette idée que cette femme-là, il la désire parce que il l'apprécie, il voit en elle une femme qu'il va épouser. C'est pas simplement une fille, elle est belle et en principe il a envie d'elle physiquement, mais c'est aussi, il veut vraiment la prendre comme épouse. Donc il va la ramener chez lui, il a déjà une autre épouse, et bon voilà, il en aura deux, quoi. Alors le grand problème qu'on a ici, c'est que d'après Rashi, Rashi dit, Velakartalechaleisha, tu la prendras comme épouse. Rashi dit, Lodibra Torah ela keneged Yetzerara. La Torah, elle parle en tenant compte du Yetzerara. C'est-à-dire, Sheim, ena kadosh baruch hu matira, isaena beisu. C'est un drôle de raisonnement. L'idée, c'est, si on la lui permet pas, il va la prendre beisu. Il va la prendre, bien que ce soit interdit. Alors, bon, en partie, les commentateurs demandent, qu'est-ce que ça, on pourrait dire ça n'importe quoi. Quelqu'un, il a envie de, je sais pas, il a envie d'un rapport incestueux. Bon, il en a très très envie, pourquoi on lui permet pas? Si c'est comme ça, c'est l'homme qui tout à coup invente la façon dont les choses vont se faire. Mais très envie, on va le permettre. C'est quoi ce soir? D'après Rashi, c'est interdit, mais la Torah, elle lui permet parce que sinon, il va faire Béissour. Bon, bah, qu'il fasse Béissour. On ne peut pas l'empêcher de faire. Il va prendre cette femme Béissour, hein, qu'il la prenne Béissour. Donc c'est très très difficile à comprendre. Comme si c'était l'homme lui-même qui allait décider qu'est-ce qui est bon pour lui, qu'est-ce qui est pas bon pour lui, quoi. Alors vous savez bien qu'il y a une discussion entre les Rishonim pour savoir si ce qu'on appelle Bia Rishona est permise ou pas. C'est-à-dire, Rashi pense que même la première Bia, c'est-à-dire, il voit la fille dans le, il voit la prisonnière, il en a envie. Alors, il y a certains poskim, mefarshim, qui disent, il la prend, il couche avec elle. Et après, il veut la garder comme épouse, alors il va l'amener chez lui, etc. Mais Rachid dit, on ne permet pas, on ne permet pas d'avoir un rapport avec elle, sur le champ de bataille quasiment. D'abord, tu l'amènes chez toi, avec tout le processus de dégradation, et après seulement, on en verra si, effectivement. Donc, on voit d'abord, premièrement, que, d'après Rashi, c'est quelqu'un qui est susceptible de se maîtriser. D'après Rashi, on lui dit, tu peux la prendre, ça veut dire quoi? Tu l'amènes chez toi. Et tu vas attendre un mois jusqu'à ce que tu puisses la prendre. Donc, il est tout à fait capable de se maîtriser. Donc, pourquoi on lui permettrait? D'après Tosfot qui dit que la première bia est permise, alors, c'est ici comme si on disait que c'est une espèce de permission qui a lieu pendant qu'on fait la guerre. Pendant qu'on fait la guerre, les soldats, ils ont le droit de manger n'importe quoi. D'accord? Ils ont le droit d'attraper une côte de porc et de la cuire et de la manger pendant la guerre. Mais ici, on est après la guerre. Ils ont déjà gagné. C'est Hachem a mis ce peuple dans tes mains, l'Yadéra, et t'as gagné, tu as fait les prisonniers. Donc, on irait étendre ce genre de permission qui est donnée pendant la guerre. Après Tosfot, juste après la guerre, on l'étendrait et il pourrait la prendre une fois. Mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on continue de lui permettre de continuer, d'amener chez lui et de la convertir, etc.? D'autant que on a affaire à des gens dont on a dit déjà dans la parution précédente que c'est quelqu'un qui Enlo, quelqu'un qui n'a pas d'avéra dans sa main. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait tchouva. S'il a fait des fautes, il a fait tchouva. Il a aucune raison d'avoir peur. La peur étant ce sentiment de se dire que je vais en guerre, c'est une situation dangereuse, et si j'ai fait des fautes, alors peut-être que je ne vais pas être protégé. Donc, on lui dit, toi, si tu n'es pas suffisamment sûr de toi, que tu n'as pas de fautes, rentre chez toi. Tu ne vas pas rester ici, hein, tu vas affaiblir le clan d'Israël. De toute manière, il s'agit d'une guerre où c'est Hachem qui va gagner, Hachem l'a mis dans tes mains, donc on a besoin de soldats, mais c'est Hachem qui gouverne la guerre en question. Là-dessus, la Torah dit, ceux qui sont pas Yerei Shamayim, etc., ils sont pas à l'intérieur de ce Ishechad, Ishechad Velevechad, comme un seul homme et avec un seul cœur. Quand on dit que c'est Hachem qui a donné a donné la victoire, ça veut dire qu'Hachem est présent, avec le, dans, il y a une shrine, il y a la shrina dans ce groupe de guerriers. Hachem. Et de ce groupe de guerriers-là, il y a un type qui sort et qui voit une femme, etc., il la désire. Donc, on comprend vraiment pas pourquoi cette femme lui est permise. Donc, il faut dire que ce bonhomme-là dont on parle, il fait partie des Kshérim parmi les Kshérim, super cachère, et c'est à lui, entre autres, à des gens comme lui, que Hachem a donné la victoire. Et après ce chesed gigantesque qu'Hachem lui a fait, il est capable de voir cette belle femme et de la désirer. Donc c'est pas simplement qu'il l'a remarqué. Qui normalement, qu'est-ce qu'il va, pourquoi il regarde, est-ce qu'il est obligé d'évaluer la qualité de la marchandise? Je veux dire, c'est quoi? Pourquoi il regarde? Alors, je vous ai dit, le Maguide de Doubno, il dit là, c'est marqué vers Hachakta. Et Hachakta, c'est positif, en quelque sorte. Pour comprendre un peu quelque chose là-dedans, Comment il peut y avoir quelque chose de positif dans ce réchec-là? D'accord? Puisque le Dubna Maguire, il dit, c'est positif. Le mot réchec, ça indique un désir positif. Alors, si je vous rapporte un enseignement de Rav Gamliel Ittach, qui dit que il ramène ici lui-même un enseignement de Rav Meir Shapiro, qui est celui qui a inventé le Daf HaYomi. C'est le Rosh Yeshiva de Lublin, Chachmei Lublin, c'est lui qui a inventé le Daf HaYomi. Et là, commentaire sur la Torah. Et il dit la chose suivante. Il y a un passage qui dit, Vayotse Moshe et Ha'am, Likrata Elohim, Mina Machane, Vayitiatzvu Betartita. Passage dit que Moshe Rabbeinu a pris le peuple, il l'a amené devant Elohim, on est avant Matan Torah, il l'amène devant Elohim. Et Vaityatsvu Betarkita, et ils se sont tenus au pied de la montagne. Il a amené les Bnei Israël du camp qui était le leur, il les a transportés jusqu'au pied de la montagne. Alors, Rav Meir Shapiro, il a raconté l'histoire du Guer Tzedek, du temps du Gaon de Vilna. Vous connaissez? Au temps du Gaon de Vilna, il y a un comte lituanien, le comte Potocki, qui s'est converti au judaïsme. Et sa famille l'a dénoncé à l'église, etc. Et il a été condamné à mort. Et après, la famille, ils ont regretté. Alors, ils lui ont dit, écoute, dis simplement que tu regrettes ta démarche et on efface tout et tu auras la vie sauve. Et il a refusé. Il a refusé et effectivement, il a été pris et il a été brûlé vif par l'Église. Et il a raconté après que, donc, bon, comme je vous ai dit, il a refusé la proposition, et il a dit à ses amis, le comte Potocki, il a dit, le Midrash, il dit, qu'Akadosh Baruch Hu a proposé à tous les peuples d'accepter la Torah. Et ils ont refusé. Quand il a proposé aux Bnei Israël, les Bnei Israël ont répondu d'un Sevenishma. Alors il a dit, c'est très très difficile d'imaginer que donc, parmi tous les peuples auxquels la Torah a été proposée, il n'y a pas eu un seul bonhomme qui a dit qu'il voulait accepter la Torah. Et de même, dit-il, c'est difficile d'imaginer que parmi tous les Bnei Israël, il n'y en a pas eu un au moins qui a dit, moi, je veux pas la Torah. Donc, qu'est-ce qu'il faut répondre? Il faut répondre que oui, certainement, il y en avait qui voulaient la Torah chez les Goïms et qui ne la voulaient pas chez les Juifs. Mais on va d'après la majorité. Il y avait une majorité de Goïm qui ne voulait pas la Torah, donc la minorité a été battue, et le contraire chez les Bnei Israël. Mais comme on va d'après la majorité, ben c'est comme ça que ça a été décidé. Mais avec le temps, la minorité chez les goyim qui voulaient accepter, ben, ou bien ils se sont convertis à titre personnel et ils se sont fondus dans le clan d'Israël. Et le mioud de gens qui voulaient pas accepter la Torah dans le clan d'Israël, ben, ils se sont fondus finalement. Ils ont fini par accepter la Torah. Alors il a dit, moi, je suis certain que j'étais de la minorité des goyim qui voulaient accepter la Torah. Mais j'étais minoritaire. C'est pour ça que je me convertis maintenant. Parce qu'en réalité, j'ai toujours voulu, c'est-à-dire, oh non, ma neshama l'a toujours voulu, mais je n'avais pas eu l'occasion, maintenant j'ai eu la possibilité de le faire. Dans le passouk, c'est marqué, Vayotse Moshe et Aham. Il a utilisé le mot âme pour dire le peuple. Et le peuple, c'est un mot qui veut dire les rechaïm. C'est pas les gens bien. C'est ceux qui voulaient pas. Moshe est allé les amener au pied de la montagne. Ils étaient en face d'Elohim, mais ils ne voulaient pas accepter la Torah. Donc il les a sortis du Mahané, du camp de ceux qui avaient accepté la Torah, il les a mis à part au pied de la montagne. Et c'est sur eux que Hachem a menacé, si vous n'acceptez pas la Torah, je vous retourne là-dedans. Je retourne la montagne sur eux. Et il dit que c'est très intéressant quand on parle d'un converti, on parle toujours d'un guer shenit gayer. Mais on devrait dire un goy shenit gayer. S'il est guer, il n'a pas besoin de se convertir, il est déjà converti. Puisque le mot guer veut dire converti. Comme si c'était un converti qui se convertit. On a dit, c'est ça le chat. C'est qu'en réalité, quand quelqu'un se convertit, c'est qu'il était déjà guer, d'après le chat il était guer au sens de, dans sa tête, il voulait déjà se convertir. Donc, dans sa tête, il est déjà converti. Avant. Donc, c'est vraiment un guer chez Midgaïev. Et donc, maintenant, il dit la chose suivante. Ce type qui est complètement cachère et il a vu, il a prêté attention à cette belle femme, il l'a désirée. Il faut dire que c'est contre sa volonté qu'il l'a désirée. C'est pas désir. Là-dessus, la Torah, elle dit, en fait, ça te correspond pas, ce truc-là. Comment ça se fait que tu es attiré, etc. C'est pas à ta hauteur, en fait. C'est pour ça que la Torah, elle dit, on va voir ce qu'il en est. On va voir, on va enlever toutes les... La partie séductrice, en quelque sorte, pendant un mois, on va voir si tu la désires toujours. Tu aurais donc une façon de savoir ce qu'il en est réellement. C'est ça qu'elle dit, tu vas l'amener à ta maison, elle va se raser la tête, elle va laisser pousser ses cheveux, ses ongles. Elle va pleurer son père, sa mère pendant un mois. Alors, bien sûr que le désir, il va diminuer. C'est ça que le passage dit, Vehimlo, Chafatz Taba, si tu ne la désires pas ici, c'est avec le mot Chefet, c'est pas Cheshek. S'il n'y a aucune dimension de désir purement matériel, l'artanafcha. Mais si après tout ce mois-là, tu sens que tu es encore lié à elle, bien qu'elle se soit dégradée, etc., alors la Torah, elle dit, tu peux la prendre comme épouse. Pourquoi? Parce que ce réchec, ce désir positif, il a été plus fort que le réfetz, un désir matériel. Et c'est ça qu'on veut dire que lo dibra Torah et la keneged yetzerara. C'est-à-dire que s'il était seulement chofetz, si c'était seulement un désir matériel, la Torah n'aurait pas permis. C'est resté beissou. Le éther, il est parce que chashakta. Donc, on va vérifier s'il n'y a aucune composante de réfets, que du réchec, que du positif, en fait. Le problème, si l'on dit comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle, cette Yefat Toa, elle aussi, elle est une guillorette d'une certaine manière. Elle fait partie des gens qui n'ont pas eu d'autres moyens pour rentrer dans le clan Israël que d'en passer par là. Donc Hachem a fait en sorte qu'elle soit repérable, etc. Vous me direz, mais alors, pourquoi c'est marqué Fatwa? Pourquoi il n'y a que les belles qui ont le droit de se convertir? Mais Chazal dit, il y a une dracha. Il dit que Afilou Keoura, même si elle est moche. Parce qu'on peut aussi avoir un désir même de quelqu'un qui est moche, parce qu'on a apprécié autre chose que son côté physique, le côté physique qui est. Mais maintenant, les Chachamim disent, donc, on comprend bien, cette fille-là, c'était quasiment une mitzvah de la ramener dans le clan Israël. C'est une neshama qui s'est paumée, en quelque sorte. C'est un autre pshat, c'est une neshama qui a été prise. On verra après. C'est pas. Il a rapporté cette idée que c'est une neshama qui n'a pas pu. Il y a d'autres qui vont lire, c'est une neshama qui, au moment de la faute d'Adam Harishon, elle est tombée sous les forces de la Touma. Parce qu'elle est tombée sous les forces de la Touma, elle est prisonnière. On verra ça après. Maintenant, les Chachamim disent que, vous vous souvenez, ben vous connaissez, vous savez que dans le texte, il y a la Yefatoa, le problème de la belle femme. Ensuite, il y a un problème de quelqu'un qui a deux femmes, une qu'il aime, une qu'il n'aime pas. Elles, toutes les deux, ont un enfant, mais celle qu'il n'aime pas particulièrement, elle a un enfant qui naît en premier. Donc c'est lui le Bechor, donc c'est lui qui a droit à la double part, et donc ça fait des problèmes d'héritage, parce que lui voudrait donner évidemment la double part à l'enfant de la femme aimée, et halakhiquement, cette double part, elle appartient à l'enfant de la femme qui n'est pas la femme aimée. Et ensuite, on nous dit que l'enfant qu'il va avoir avec cette Yefat Toa, il va devenir Ben Sorer ou Moré. Ben Sorer Umoré, c'est un enfant qui n'écoute pas ses parents, qui commence à voler pour pouvoir se payer. Il vole, il pique dans le porte-monnaie de ses parents au départ, parce qu'il veut de la viande, il veut du vin. Donc il se crée une espèce d'addiction à cela. Et la Torah dit que il est à l'âge de la bar mitzvah, et il y a des procédures, et dans les procédures, on finit par le tuer, on le tue parce qu'il va mal tourner. Alors la Gemara, elle dit que cette situation, elle a jamais existé, elle n'existera jamais, parce que les conditions pour qu'un enfant soit considéré comme Benserrer ou Morée, elles sont telles qu'elles sont irréalisables. En particulier, par exemple, il faut que le père et la mère non seulement parlent, disent la même chose, mais qu'ils aient la même voix et le même ton de voix. Donc, ça n'existe jamais. D'autres questions aussi qui font que, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de nous raconter cette histoire? Ça vient nous enseigner des questions de chinouch, des questions d'éducation, pour nous enseigner que les différents sujets, les différentes choses qui sont dites sur cet enfant qui n'écoute pas ses parents, etc., c'est une liste de choses qui peuvent influencer négativement l'enfant. On n'a pas besoin qu'elles soient toutes réunies pour que ça soit mauvais pour l'enfant. Chacune d'entre elles peut influencer négativement l'enfant. Ça, le chinouch, les indications d'éducation de l'enfant qui nous sont données là. OK. Maintenant, pourquoi est-ce que cet enfant-là, il doit mal tourner? La femme en question, c'est une femme qui est une guillorette, et une vraie guillorette. Pourquoi est-ce que l'enfant, il tournerait mal? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tout à coup, il n'aimerait plus cette femme-là? Bon. Ici, la Torah, elle ne dit pas que c'est cette situation-là qui devient la situation des deux femmes. Mais la juxtaposition, dit Rashi, la juxtaposition, elle donne à penser que l'un entraîne l'autre. D'avoir choisi cette femme pour sa beauté, même si ensuite on a expliqué que c'était tout à fait positif et tout, néanmoins, ça va avoir des conséquences négatives. Mais pourquoi? Alors lui, il dit que peut-être l'idée, c'est que c'est vrai que c'était un tzaddik, le guerrier en question, qui a vu la femme, etc. Et que son désir était un désir du type cheshek, c'est-à-dire un désir positif. Mais il est presque impossible qu'il n'y ait pas eu en même temps aussi quelque chose d'un tout petit peu négatif, que finalement, bon, il a eu envie de cette femme. Et bah, donc il y avait une espèce d'élément de désir matériel. Et parce qu'il y a cette composante de désir matériel, ça tourne mal. Bon, je ne sais pas si c'est si facile d'expliquer ça comme ça, parce que finalement, pourquoi est-ce que elle, la mère de l'enfant, pourquoi elle est fautive? Elle n'a rien fait de mal. Elle, c'est une tzadéket, c'est une guillorette, au plein sens du terme, qui s'est convertie pour d'excellentes raisons. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça tourne mal pour elle? D'accord, lui, même si disons que pour lui, cette imperfection, elle a des conséquences. Mais pourquoi pour elle? Ben, Hazal raconte que David HaMelech, il a épousé une femme Torah et il a eu un fils avec cette femme Torah, et ce fils, c'est Absalom. Absalom pour les intimes. Et Absalom, c'est un désastre. C'est un fils qui s'est révolté contre son père. Et à la suite de cette révolte, il y a eu des milliers de juifs qui sont morts. Il y a eu une guerre, des milliers de juifs sont morts. C'est-tu factoire? Possible. A priori, David Ameller, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est très difficile de comprendre cette histoire. Pourquoi il y a des conséquences négatives dans cette affaire-là? Alors, si c'est que, si il faut dire qu'en réalité, le paragraphe des deux femmes, l'une aimée, l'autre ne l'est pas, alors tout le monde pense tout de suite à Rachel et Léa. Il y a quoi avec Rachel et Léa? Mais là-bas, on dit que Yaakov, c'est pas que Yaakov ne l'aimait pas, c'est que par rapport à l'amour qu'il manifestait à Rachel, Léa, elle comprenait qu'elle n'était pas aimée, relativement à la manifestation de l'amour pour Rachel. On peut pas dire que Yaakov, il la haïssait, on n'a pas le droit de haïr quelqu'un. Un issur dans la Torah. C'est vrai que, ensuite, dans la conduite de Yaakov, il préfère Yosef, c'est-à-dire un fils de Rachel. Mais il a quand même donné la royauté à Yehuda, qui est un fils de Léa. Il l'a enlevé à Rouven, un fils de Léa, mais il l'a donné à Yehuda. Yehuda, c'est aussi un fils de Léa. David Apicheter, ici, c'est lui le fondateur de Birchouni. Birchou, quoi. Je parle de Birchou, par exemple. Il parle de cette question-là. Donc, où on voit que, a priori, la Torah, elle a l'air de permettre d'épouser une femme non juive. Donc, lui pose la question comment on pose, comment c'est possible que la Torah permette, parce que sinon, il va la prendre de Issour. OK. Il n'y a plus aucun Issour qui tient. Il faut lui permettre de manger aussi une côte de porc, sinon il va la manger béissour. On va lui permettre. C'est terminé. En plus, le issour, c'est un issour d'Arayot, parce que, en fait, Rashi, il explique que cette belle femme qu'il a vue, c'est peut-être une femme mariée. C'est pas elle est peut-être mariée. Il l'apprend. Voilà, elle raconte que il y a un homme qui a vu une fois une femme et il l'a désirée, mais il ne pouvait pas la voir, elle ne voulait pas. Et il en est tombé malade. Alors, la Gemara, elle raconte qu'il a commencé à négocier, je voudrais la voir simplement, la voir derrière un rideau, etc. Mais la femme lui dit, rien du tout, tu peux crever. Tu crèves. On va pas, une femme, c'est pas un objet, tu as envie de la voir, elle est là. Non. Vois que les femmes, ils ont été très sévères normalement sur ces questions-là. Même Picouar Ravèche. Même pour sauver la vie du bonhomme, ils n'ont pas permis. Alors qu'il n'y avait pas vraiment de issue. Comment est-ce que la Torah, elle peut ici, maintenant, dire que cette femme-là est permise? Alors, la vérité, ce n'est pas Erva, ce n'est pas Arayot, parce que c'est une Goya. D'accord? Le issour avec une goya, il n'est pas le même qu'avec une femme juive. Là, ils disent que c'est un carré. Goya. Dire, c'est livré au ciel. Le tribunal ne peut pas, le tribunal céleste, être terrestre. Il ne s'en mêle pas, mais ça remonte au ciel, quoi. Lui aussi, il dit, mais les gens qui partaient en guerre, c'était des tzadikim. Et on triait les gens. On a accepté on a gardé que les gens qui n'avaient pas de problème. Alors, il dit, voilà, une explication pour la permission de l'aéfatoire. Alors, son explication, c'est une explication qui vient du Or HaChaim. Le Or HaChaim, c'est un kabbaliste. Et il explique comme ça. Y a un Zohar qui dit Chebechet Adam Arishon, au moment de la faute d'Adam Arishon, Nashvu Kaman Neshamot Yekarot, Bechevi Kochot Atuma. Comme je vous ai dit, il y a quelques âmes pures qui ont été faites prisonnières par les forces de la Touma, de l'impureté, au moment où Adam a fauté. La faute d'Adam Arishon, elle a renforcé la force de la Touma. Donc, ces forces de Touma ont pu faire main basse sur quelques-unes des Neshamot. Et ça, dit le Zohar, ce sont les Neshamot des guéris. Donc, chez Prol Dor Vador, à Shavot Limkoran, dans toutes les générations, il y a des Neshamot qui retournent à leur source, c'est-à-dire il y a conversion, et donc la Neshama, elle se retrouve dans un corps de Ben Israël, de Bat Israël. Et dans ces Neshamot, dit le Zohar, qui étaient prisonnières et qui, de temps en temps, arrivent à se libérer, le Zohar dit, il y a là-bas, Kama Tzadikim Doléolam, Ruth Amoharbia, par exemple, donc l'ancêtre de David et du Mashiach, et aussi Shmaya, Avkalion, les maîtres de Hillel, oncle Saguer, etc. Et c'est ça le Sod Agadol qui se dévoile dans cette paracha ici de Yefat. C'est-à-dire, il faut ramener ces nefashot qui sont prisonnières de force de la Touma à leur source. C'est ça l'opération. Et c'est ça que la Torah veut dire quand elle nous dit ici que si le tzaddik, là, le guerrier tzaddik, quelqu'un qui n'a pas de faute, hein. C'est comme ça la condition pour être un de ces guerriers-là. Il s'occupe de mitzvah shel milchemet be'oyvei Hashem. Il est occupé de faire la de lutter contre les ennemis d'Hashem. Et au même moment, il désire cette prisonnière-là. C'est un signe que la Neshama Kdosha, qui est en elle, dans cette prisonnière, et donc pour la libérer, pour la ramener à sa source, la Torah permet de convertir cette femme et de l'épouser. De telle sorte que neshama revienne à sa racine du côté de la kdusha. Donc, il y a ceux qui disent que c'est une mitzvah. Vraiment, ici, il y a un Rajbo. Le Rajba, il dit, il n'est pas d'accord. Pas du tout d'accord. Le Rajba, il écrit, Yefat Tohar, lav mitzvahi. Mais Yefat Tohar, ce n'est pas une mitzvah. Et l'autre dit, Bra Torah, elle a Yetzerara. Parce que la Torah, elle a permis ça à cause du Yetzer Hara, et donc ça n'en devient pas pour autant une mitzvah. Donc lui, il est vraiment cholèque sur... Et il dit, l'Odamia, elle a, à quoi ça ressemble? Le mi shachazo bulmus, chez noto ad enav, ou misham veelach, veisura, quelqu'un qui a attrapé une fringale, quoi. C'est-à-dire il est malade, il a absolument besoin de manger. Et c'est très, très dangereux. Alors, on lui donne à manger, il peut tout manger, n'importe quoi, parce qu'il est en danger. Mais une fois qu'il a retrouvé son souffle et etc., toutes les choses reviennent comme elles étaient, c'est interdit. Ve'achinami ici aussi. Mibiya rishona, ve'elach, Adat, pardon, Assou. Il dit, ce qu'on lui permet, c'est le premier rapport avec elle sur le terrain de guerre, mais après, elle est interdite. Il n'y a pas de mitzvah. Donc ça, c'est le Rajbo. Maintenant, je reviens sur les kabbalistes, le Rahim, etc. Le Rahim, il explique un sifri, il y a un commentaire donc halakhique sur la paracha de Kitetsé, justement qui demande, mais pourquoi ça s'appelle Yefat Tohar, la belle captive, ouais. Alors, le sifri, il demande, Minaïna filo keora, d'où est-ce qu'on sait que ça peut aussi considérer, ça peut aussi concerner une femme moche. Talmud Lomar, Bichashakta Ba. C'est un désir pour elle. Donc ça peut être, le désir ne veut pas dire qu'elle est belle. Bichashakta Ba, ça veut dire tout ce qui est important, c'est que toi tu la désires. Mais en principe, c'est un peu difficile. Pourquoi effectivement la Torah présente la chose en disant que c'était une fatwa, qu'elle était belle, elle avait une belle forme de visage ou de corps. Et ensuite, on a besoin de dire Rachak Taba pour inclure aussi celle qui est moche. Ne dis pas du tout qu'elle est belle, on n'a aucun problème. Isha, c'est tout. Alors, il explique en disant que la kavana de la Torah, quand elle dit Yifat Torah, c'est pas, on parle pas ici d'une femme qui est belle extérieurement. C'est l'éclat de sa neshama qui est pur. C'est cette neshama qui s'appelle Yifat Torah, qui est belle de forme. Elle est chevouillée avec les atouma. Et simplement, c'est une belle âme prisonnière dans un corps de Touma. Valken katva Torah betrila Torah. Mais comme on peut se tromper et penser que on parle de l'extérieur, de la beauté extérieure. Alors on précise le Chashak Taba. Alors maintenant, lui pose une question. Il dit, mais si c'est une mitzvah, pourquoi il faut attendre un mois? C'est une mitzvah, alors c'est bon. Il dit, ce principe du Rahaïm, il est en quelque sorte un peu combattu, contredit, par ce que l'Agmara dit dans Massechet Kiddushin, au sujet de la Yifat Torah. Hazal dit, lo dibra Torah ela keneged yetzer hara, mutav sheyochlu Israël basar tmutot shutot, val yochlu basar tmutot nevelot. Mashma me dvarim elu, sheeter zehu bedieved bilvat. La Gemara dans Kiddushin, on voit que la permission, elle est seulement a posteriori. Le chatrila, il faudrait pas. Si tu l'as prise, alors voilà ce qui se passe. Ça devient permis. Donc ça veut dire, c'est seulement bediyeved que c'est comme le dit le Orachaim. Od yesh lavin, d'après ça, faut aussi comprendre. Les Chazal ont dit dans le Midrash, Shetam tzivuya Torah, shebeterem issa Adam et Aisha, teshev beto yirach yamim, betnavel et atzma. Faut comprendre, le Midrash dit que la raison pour laquelle la Torah a demandé qu'il l'amène chez lui et qu'elle se dégrade, etc., le Midrash dit, Kedesh timas be'enav velo yirtse leseta, pour qu'elle soit dégoûtante à ses yeux et qu'il ne veuille pas l'épouser. On comprend rien du tout. Si on parle de, tel que le Rachaim dit, pourquoi est-ce que la Torah elle veut qu'il l'épouse pas? Il faut qu'il la convertisse et qu'il l'épouse. Donc, il faut dire ici que dans le processus de libération de cette neshama de la Yifat Torah, il y a deux parties. Il y a une première partie qui est la raison pour laquelle on a permis la première bia, le premier apport, pas comme Rashi, mais comme Tosfot. Que sur place, il peut faire une première bia. Dans la Milchama, Beoda Anochit, alors qu'elle est encore une Goya à ce moment-là. C'est parce que celui qui part en guerre, Boer Bekirbo, Aratzon, Ligolet, Anshama, Shvuya. Vimlo, Yatirulo, La Sotken, Yavoale, À ce moment-là, brûle en lui l'idée de, il faut ramener cette Neshama à sa source. Et si, on ne lui permet pas, il est tellement pris par l'idée qu'il va faire quelque chose de grand qu'il va la prendre ici. Mais par contre, la deuxième partie, c'est la partie birour, clarification. Et dans ce processus-là, on va voir quelle est vraiment la kavana de cet homme. Est-ce que c'est vraiment Mitzvah Akdusha ou Mitzvah Yetzer Hara? Comme on va le montrer. Alors, il explique. Celui qui part en guerre, dont on a vu que c'est un tzaddik, etc. Et il fait Torah mitoch ratzon ligol neshama shvuya. A priori, on doit dire, puisque c'est un tzaddik, que sa démarche, quand il l'apprend, c'est pour la libérer, la sortir effectivement de l'emprise des forces de la Touma, pour l'amener du bon côté. Okay. Kol makom, riva oto à Torah, le ta'alir shel biru. Néanmoins, la Torah lui a imposé un processus de clarification. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, vraiment, vraiment? Pour vérifier si, après qu'elle se soit dégradée, etc., il a toujours envie d'elle. Si maintenant qu'elle n'a plus aucun attrait physique, il continue de la désirer, c'est que c'est pas, c'était vraiment parce qu'il voulait ramener une neshama dans le clan Israël. Mais sinon, alors c'est un signe que sa volonté, elle ne vient pas d'une volonté, sa volonté de l'apprendre n'est pas complètement parfaite. Il y a des composantes différentes. C'est pour ça que la Torah, elle a voulu qu'elle se dégrade, etc., pour que si jamais, effectivement, sa volonté n'était pas vraiment pure, clairement, il va pas l'apprendre. Donc, tout le processus, c'est un processus pour se garantir que sa démarche est vraiment une démarche sincère de récupération d'une neshama qui est prisonnière dans la Touma, de la sortir pour la ramener. Alors, il dit, on apprend une grande chose de cette paracha. Concernant la lutte de l'homme contre son Yetzera, parce que tout le monde dit que qui est vraiment ton ennemi, c'est ton Yetzera. Donc il faut partir en guerre contre le Yetzera. Donc on apprend cette paracha, Ketsad Tailotav. Donc, c'est quoi les armées de l'armée du Yetzirah? Toutes les ruses, etc., tout ce qu'il peut faire pour nous faire échouer, nous montre que il faut clarifier Mahouto shel kol maaseh. Il faut vérifier chaque action exactement qu'est-ce qu'elle est, effectivement. Donc, un peu se demander d'où elle vient, cette action que, voilà, je vais agir de telle et telle manière, c'est quoi ma motivation? Pour aller vraiment regarder quelle est ma vraie motivation. Est-ce que elle est bonne ou non? Vous autres, à l'idée, chez Nassé Adam, le navelet ta'avat à olam hazeh, comment il faut faire? Eh ben, il faut dégrader, c'est-à-dire enlever de la valeur à tout ce qui est autour de l'objet sur lequel on travaille. Donc, voilà, on fait une action pour regarder tout ce qui est autour de cette action-là. Hatsheye baruch. Bien voir que la part du Yetzirah dans ce que je suis en train de faire, c'est rien du tout. Imayon asher en bo mamash. Alors c'est vrai qu'on a l'impression que on y gagnerait quelque chose à faire les choses un peu différemment, un peu plus proche de ce que veut le Yetzirah, mais on faut travailler pour bien dégrader la séduction éventuelle du Yetzirah dans cette situation. La chair, Béné Adam, Kéfi, Shen Bémet, pour que les choses de ce monde-ci, les choses matérielles, soient aux yeux de chacun d'entre nous, elles soient ce qu'elles sont vraiment, et pas plus. Et du coup, le Yetzer Hara, il ne pourra pas me tromper et nous faire prendre des messies pour des lanternes, c'est-à-dire prendre des avérotes pour des mitzvot. Alors, ça c'est y compris dans les mitzvot. Parce qu'éventuellement, le Yetzer Hara, il peut participer aussi à la mitzvah et arriver à faire dévier les choses. C'est ça le grand problème, c'est que le Yetzer Hara, il a le droit, il a tous les droits. Il a le droit de nous proposer de faire une mitzvah. On pourrait penser que bah, s'il me propose une mitzvah, c'est seulement Riyas Seratov. Mais le Chafetz Chaim, il dit que, vous connaissez probablement, que le Yetzer Hara, il peut venir te réveiller, te dire, lève-toi, il faut aller à la tfila. Dis, bah, si je me réveille à temps pour aller à la tfila, c'est ce qui me réveille, c'est sûrement Riyas Seratov, non? Non, ça peut être le Yetzer Hara. Parce que, en attendant, c'est lui qui te fait avancer. Et à un moment donné, il obtiendra ce qu'il voulait. Il voulait, le professeur Hamid dit, il voulait que tu parles entre Baruch et Amar et Ishtabach, là où on n'a pas le droit de parler. C'est ce qu'il voulait. Pour y arriver, il fallait que il te présente, qu'il te prenne le pouvoir en te proposant une mitzvah. Si le Yetzer Hara, il vient vers vous et il vous propose de manger Yom Kippour, il n'a pas beaucoup de chances de gagner. Donc, il va pas venir tout ça. Par contre, il faut qu'il s'habille d'une mitzvah. Il va te dire, là, il faut aller faire telle et telle chose qui est une vraie mitzvah. Mais c'est une mitzvah que tu fais sous l'emprise du Yetzer Hara. C'est ça qui est terrible. Qu'il ait le droit de nous faire faire des mitzvot. Veut dire que même quand tu fais une mitzvah, c'est évident que quand quelqu'un, bon, il y a des cas où on comprend très bien, quelqu'un qui donne de la tzedaka, il faut regarder pourquoi il donne de la tzedaka. Est-ce qu'il donne de la tzedaka publiquement? Est-ce qu'il le donne pour écraser celui auquel il donne la tzedaka pour, en fait, il est grand parce que lui, il est au-dessus de l'autre. Est-ce que, d'accord, mais c'est pour qu'on dise combien il est généreux, pour que il veut impressionner X, Y ou Z, ou sa femme, ou sa fiancée, etc. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent nous faire donner de la tzedaka, effectivement, même peut-être très généreusement. Mais en fait, c'est pas du tout la tzedaka. C'est un investissement pour ma gloriole. Parce que je veux qu'on annonce, c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont capables d'annoncer des dons à la choule comme ça et qui ne les payent jamais. Il y a des gens quand on fait des, c'est connu que quand il y a des allodons, des trucs comme ça, celui, dans ces cas-là, les gens s'engagent. Il y a des trucs comme ça, les gens s'engagent, mais ils payent jamais. Il y a des gens qui sont des spécialistes, qui annoncent très fortement combien ils vont donner, mais on sait très bien, il y a quelques-uns qui sont répertoriés, on sait. Il payera jamais celui-là. Il paye pas, c'est... Il y a ceux qui annoncent comme ça et qui n'ont pas, alors, oui. Mais il y a ceux qui pourraient très bien donner. Ils donnent pas. Simplement, ils veulent que... Ça fait du bruit quand il a donné, ah, lui, il a donné une somme importante. Alors, on va en parler. Après, concrètement, on va pas publier qu'il n'a pas donné. parce qu'on est gentil, alors on n'oublie pas qu'on ne donne pas. Ça, c'est dans la tzedaka, mais c'est dans toutes les mitzvot comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils portent en général les tzitzit à l'extérieur. Beaucoup de gens portent à l'extérieur. Avant, les gens disaient, si on portait les tzitzit à l'extérieur, alors les gens, ils font attention à la qualité de leur tzitziot, autant qu'ils font attention aux étrogues. L'étrogue, c'est la chose qu'on montre. Mais avant, quand les gens voyaient pas les tzitzit que les gens portaient, Talit Katan, c'était n'importe quoi. Alors, du coup, ça, c'est le bon côté, en fait, de porter les tzitzit à l'extérieur, parce que comme ça, ça aide les gens à avoir des beaux tzitzit. Ensuite, il y a, je vais dire deux mots aussi sur le Ben Sorer ou Moré. Pasuk dit qu'il y ait le Ish, Ben Sorer ou Moré, etc. Le Chol Israël, Ish Meu Virao. Donc, voilà. Comme on dit, le Ben Sorer ou Moré, il est Nidon Hashem Sofo. C'est-à-dire, il est jugé sur le fait qu'on pense qu'il va mal tourner. Il a pris un pli qui l'amène droit dans le mur. Le problème, c'est, est-ce qu'on est tellement sûr? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que s'il s'habitue, bon, il vole, les parents, mais un jour il n'aura plus les parents, la possibilité de voler ses parents. Donc à terme, ben, il va se mettre à la croisée des chemins, il va attaquer la diligence pour dépouiller les gens et prendre leur argent. On peut tuer des drogués, ils peuvent tuer pour 1 dollar. Ils ont besoin de leur dose, donc on pense que s'il s'est habitué à avoir toujours son steak pommes frites là avec un verre de vin, ben, il saura pas se limiter et un jour ou l'autre il va passer à l'acte. Et donc c'est parce pour lui éviter d'en arriver là qu'on le retire de la circulation. Alors, on n'est même pas sûr. C'est pas sûr qu'il va faire tchouva d'ici là, il va trouver quelqu'un qui va le mettre sur le bon chemin. Et même si on dit que la Torah, elle a compris, elle sait qu'il va en arriver là. La Torah, elle, bon, voilà. Nous, on connaît les hommes, il va en arriver là. Néanmoins, le problème c'est, qu'est-ce que tu vois? Il va tuer quelqu'un. Mais si quelqu'un tue, la peine de mort à laquelle il est exposé, c'est saïf. C'est-à-dire, on va lui couper la tête. Donc, si quelqu'un tue, la peine de mort qui vient sur la retsicha, sur le meurtre, c'est saïf. C'est-à-dire, on lui coupe la tête. Pourquoi est-ce qu'on est Mahmir ici, que lui, on va lui donner ce qu'il a? Ce qu'il a, c'est une peine de mort beaucoup plus grave dans la liste des 4 peines de mort. Ce qu'il a, c'est tout en haut et c'est Saïf, quoi, c'est pas tout en haut. Comment ça se fait que on lui donne, alors qu'il n'a rien fait encore, une peine de mort qui est plus grave que celle qu'il aurait encourue s'il avait vraiment passé à l'acte. Compréhensible. Il faut aussi comprendre dans notre paracha, dit-il ici, c'est la raison de la mitzvah qu'on a de se souvenir d'Amalek. C'est la dernière chose qui est dite dans la paracha. Zachor et Asher Asa lecha Amalek. Il faut comprendre. Cette mitzvah, elle n'est pas faite pour effacer le souvenir d'Amalek. Parce que cette mitzvah-là, elle concerne aussi celui qui n'est pas concerné par la mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek. Lequel, bisman chez mitzvah mechiat Amalek, enan noeget. Dans un moment où la mitzvah de détruire Amalek n'est pas pratiqué. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de mitzvah je pense qu'il faut avoir un roi pour cette mitzvah de destruction d'Amalek, d'effacer Amalek. Alors, pourquoi est-ce que on doit se souvenir de la méchanceté d'Amalek? Pourquoi ne pas se souvenir de la méchanceté des autres peuples qui nous ont fait du mal? Les Égyptiens, les Moabites. Il dit que, en fait, les deux sujets, la grande sévérité pour le Ben Sorer ou Moré et l'histoire du souvenir d'Amalek ici, c'est très lié. Tuer le Ben Sorer ou Moré et Zechirat Maaseh Amalek, dans les deux cas, bien que la grandeur du risque soit évidente, c'est vrai qu'on peut penser que ben, finalement, Amalek, c'est pas si terrible, et que Ben Sorer ou Moré non plus, c'est pas tellement grave. Néanmoins, la vérité, c'est que on peut se tromper. Et donc la Torah, elle vient, elle dit, faut pas que tu te trompes. Et donc je te donne une mitzvah de faire les choses de façon très très accentuée, très grave. Ben Sorer ou Moré, on voit pas qu'il crée un dommage sur son environnement. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il mange de la viande et il boit du vin. Ouais, c'est terrible, là. À la limite, il fait ça chez lui, entre ses quatre murs, c'est ce qu'on veut. En vérité, la Torah, elle dit que ça va avoir un impact sur l'environnement, même maintenant. Même avant les avérot qu'il va faire finalement si on le laisse faire. Charé roéu bechayé et taïka. Parce que c'est quelqu'un qui voit que la vie dans ce monde-ci, manger et boire, quoi, c'est ça l'essentiel. Maasav meidim. Donc on voit que il n'accorde pas d'importance au principe de récompense et de sanction sur les mitzvot. C'est pour ça que, en plus de la sanction qu'on doit donner au Ben Sorer ou Moré, Hachem Sofo, Sheyamut Zakai, Valyamut Chayav, on préfère qu'il meure sans avoir fait de faute plutôt que de mourir après avoir tué. C'est dit, on dit, V'chol Israël, Yishmeu. On veut que tout Israël voie et craigne. Ce qu'on veut, on veut diminuer l'influence sur le clan Israël de sa façon de regarder le monde, en fait. C'est pour ça qu'il est sanctionné par quelque chose de tellement lourd, même de plus lourd que ce qu'il encourrait s'il développait ce qu'on craint qu'il développe. Pourquoi? Parce que on veut que tout Israël prenne une leçon. Les gens comprennent que cette façon de regarder le monde est grave. Chez Amalek, c'est la même chose. La sakana spécifique d'Amalek, dont Israël devait se tenir à carreau de ça, c'est qu'il est le premier Amalek à avoir fait la guerre contre Israël. On dit, Vaizanev becha kol anerchalim acharecha. Rashi explique, tous les nerchalim acharecha, ça veut dire, chaserei koach machmatzchetam. Ceux qui manquaient de force pour lutter contre Amalek parce qu'ils avaient fait des fautes. Les gens qui font des fautes, ça les affaiblit. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas protégés par la nuée qui protégeait le clan d'Israël. Quand les gens faisaient des fautes, ils étaient sortis de la nuée, donc ils n'étaient pas protégés de la nuée. Donc Amalek vient derrière et il les attaque. Et donc on voit que Amalek il n'attaque pas les forts, il attaque les faibles. Et on voit que Amalek, ce qu'ils ont fait, comme vous savez probablement, les gens d'Amalek, ils se sont déguisés en, ils ont pris des habits des peuples voisins pour qu'on croie que ce soit pas, qu'on sache pas que c'est d'Amalek. Et ils se sont dit, voilà, les Bnei Israël, quand ils vont nous voir, ils vont croire qu'on est le peuple machin. Ils vont prier Hachem, sauve-nous du peuple machin. Mais Hachem ne va pas les sauver de nous, puisque nous, on est Cananéens. Ils n'ont pas prié contre nous. Ils ont prié pour un peuple qui n'existe pas. Leur truc n'a pas marché parce que ces crétins, ils ont gardé le même langage. Les Israéliens, ils ont entendu qu'ils parlaient comme des Cananéens. Non, ils parlaient comme des Amalékites, pardon, ils parlaient comme des Cananéens. Ils se sont déguisés en Cananéens, et en fait, il faut pas qu'on voit qu'ils étaient des Amalécites. Et donc, on pouvait se tromper et penser que ils attaquent seulement les faibles. Ils veulent pas attaquer le clan Israël, seulement les faibles. C'est le contraire. Ils veulent tout détruire. C'est pour ça que il est le premier ennemi qui a attaqué les Bnei Israël, bien que il était prêt à pour ça. L'image, c'est qu'il a sauté dans la baignoire qui était bouillante. Il s'est ébouillanté, mais il a refroidi la baignoire et il a montré qu'on pouvait attaquer les Bnei Israël. C'est pour ça que la Torah, elle dit, souviens-toi de Amalek. Il faut se protéger de son influence. Même quand il n'y a pas de possibilité d'appliquer la mitzvah de Timchez Amalek, d'effacer complètement le souvenir d'Amalek sur le monde, il y a une mitzvah supplémentaire ici. Souviens-toi de ce qu'il t'a fait. Il y a une obligation de s'oublier, de se souvenir, de savoir que cet ennemi-là, il est très dangereux et d'autant plus dangereux qu'il ne montre pas qu'il est dangereux. Car il se présente toujours comme il attaque seulement les faibles, pas grave. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on apprenne. C'est-à-dire, il faut savoir qu'il y a des petites choses mauvaises qui ont l'air d'être sans importance, mais qui sont extrêmement graves. Il faut aller regarder exactement ce qu'il y a derrière, parce que ça peut être beaucoup plus grave que la chose elle-même. Ce qu'on voit, on n'a pas l'impression qu'il faut. Il ne faut pas la peine d'en faire tout un plat. C'est-à-dire que les choses, elles ne se voient pas toujours. Quelqu'un faisait remarquer que dans les années 30, une grande partie des Talmidei Chachamim, de grands Talmidei Chachamim, étaient à Berlin, à l'université à Berlin. Ils n'ont rien vu venir. Rien du tout. Dans les années 30. Et juste après, il y avait Hitler. Personne n'a rien vu. Ni les Soviétiques, ni les Lubavitchers. Personne. Ils étaient tous là-bas à Berlin, faire leurs études. N'ont rien vu venir. Pas rendu compte. Il y avait toujours un petit antisémitisme standard. Bon, c'est pas grave. Rien, ils n'ont pas vu monter que finalement tout le monde était d'accord. La plupart des Allemands, on attaque les Juifs, c'est pas grave. Donc il y a un problème de voir ce que c'est susceptible d'entraîner et de voir que c'est déjà grave maintenant parce que ça défend une vision du monde qui est fausse. Et ça fait du mal à tout le monde. Voilà, on va s'arrêter là. Bonsoir.
Chavez.